Le journal était présenté par Mathieu Laurent, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Mais quel foin cette réforme du collège, pour reprendre les termes de l'un des articles de Marie Picmal dans Libération. Et c'est vrai que l'on en parle beaucoup, avec un vocabulaire parfois guerrier, une nouvelle guerre scolaire pour le monde. École, le massacre des innocents pour Marianne, l'égalité n'est pas au programme pour l'humanité. Collège, toujours le même baston, nous dit Libération. On a un peu l'impression de revivre la même violence dans le débat, la même fièvre que lors du mariage pour tous, branle-bas de combat au gouvernement pour calmer les esprits et expliquer la réforme, l'égalité plutôt que l'élitisme à l'école. Oui, mais voilà, toucher à l'école, c'est prendre des risques. La réforme des collèges, comment les journalistes travaillent-ils sur les questions scolaires? On en parle ce matin dans Le Secret des Sources avec nos invités. Sylvie Ducato, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste en charge de l'éducation à l'humanité. Marie Picmal, journaliste à Libération, bonjour.
Bonjour.
Et Benoît Floch, spécialiste des questions d'éducation au monde, bonjour.
Bonjour.
Et vous avez publié en 2010 aux éditions du Chêne, Mon École, un livre toujours d'actualité. Nos deux regards extérieurs aujourd'hui dans Le Secret des Sources, Mariette Darigrand, sémiologue, et Thibaut Henton pour les images et les réseaux sociaux. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Dans les coulisses de l'émission, Doria Zénine, Mathias Mégy, avec aux manettes cette semaine, Bruno Gagnère-Fontanille, le clin d'œil en fin d'émission, signé Yacine Bouzard. Et puis nous débrieferons Christine Moncla, de retour de mission à Cuba, où elle a accompagné le président Hollande et toute la délégation française. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans Le Secret des Sources.
Le collège français va mal, il produit de plus en plus d'échecs. À l'entrée en 6e, 12% des élèves ne maîtrisent pas les bases, ils sont 25% 4 ans plus tard à la sortie du collège.
Les enquêtes PISA, précisément, ça fait des années qu'elles nous disent que notre collège, depuis 10 ans en particulier, a des résultats dégradés. D'autres pays autour de nous ont eu aussi des alertes de ce type. Ils ont adopté des réformes pour s'améliorer. Et du coup, eh bien, ces 10 dernières années, ils nous ont dépassés. Vous vous rendez compte qu'on est dépassé par la plupart des pays qui nous entourent en matière de performance des élèves au collège. Et je parle bien, ce faisant, de tous les élèves, y compris des meilleurs.
Du coup, pour lutter contre les difficultés, la réforme du collège prévoit un accompagnement individualisé obligatoire pour tous les élèves, soit pour faire du soutien scolaire, mais aussi pour mieux intégrer les changements liés au collège, comme par exemple la prise de notes et ce pour les rendre plus autonomes.
Le latin et le grec, aujourd'hui des options, deviendront avec cette réforme des enseignements de complément.
Parce que là où il ne faut pas se leurrer, c'est que dans un collège inégalitaire tel que celui qui existe aujourd'hui, eh bien l'élite n'est pas si bonne que cela. L'élite est moins bonne puisque par définition, elle est moins challengée, elle est moins stimulée pour être encore meilleure.
Nous considérons qu'elle conduit le collège vers plus de justice sociale.
On rentre dans une nouvelle logique qui est celle de l'apprendre et du travailler autrement.
Voilà, on vient d'entendre Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, mercredi dernier dans les matins de France Culture, avec des éclairages de Sonia Bourane de France Inter et Hakim Kasmi de France Culture, tous deux spécialistes éducation. Alors, égalité plutôt qu'élitisme, et d'ailleurs les élites n'en sont pas, nous dit la ministre. Est-ce que lors de vos reportages et de vos enquêtes dans les collèges ou les lycées, ce mur de séparation entre les classes d'élites et les autres saute vraiment aux yeux? Sylvie Ducato, je crois que vous êtes de l'Humanité, vous êtes allée à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord.
Oui, il y a quelque chose qui a été assez évident et qui n'est pas dans le reportage de l'Humanité puisque ça n'était pas son objet. C'est que la concurrence entre établissements existe. Et sur ce territoire-là, c'est un constat que j'ai fait. Il y a un collège qui a bonne réputation, il y a un collège qui a mauvaise réputation simplement parce qu'il accueille les enfants de la ZUP voisine. Et il y a un troisième collège qui est le collège privé, qui est une boîte à bac en fait. Et dans les propos des uns des enseignants de ces deux établissements publics, on sent cette concurrence qui travaille le quotidien de tous, c'est-à-dire le quotidien des parents, le quotidien des enfants et le quotidien des enseignants. J'ai entendu par exemple un enseignant me dire, moi j'en suis à un point où j'ai l'impression parfois d'avoir à vendre mes projets aux enfants, aux parents, aux collègues, aux chefs d'établissement. Un autre me disait, mais on a l'impression que les choix se font un peu comme dans une optique d'offrir une belle vitrine au collège pour améliorer sa réputation.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? On est loin de l'intérêt des élèves ?
En tout cas, on n'est pas dans les questions peut-être essentielles à se poser quand on en est là, mais ça existe, oui.
Benoît Floch, du Monde, les classes d'élite, elles sont si pénalisantes que cela ? Il faut les modifier, les fermer, les transformer, les arrêter ?
En toute la difficulté, finalement, c'est de joindre les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire faire réussir les bons, enfin en tout cas les nourrir, et puis aider ceux qui sont un peu moins bons à progresser. De toute façon, on a beaucoup parlé de classes bilingues, puisque c'est elles notamment qui sont mises en cause.
Bilingues et euro, ouais.
Oui, mais les classes bilingues, ce sont pas des classes bilingues en réalité. C'est-à-dire que c'est souvent la moitié de la classe qui est en bilingue. C'est pas vraiment du coup une classe d'élite, et ça peut avoir un effet positif pour
Parce
les autres élèves.
Les élèves sont mélangés dans les autres classes.
Oui.
Ils ne se retrouvent que pour l'enseignement de la langue.
Exactement.
Comme pour les classes européennes.
Oui. Et les études quand même de l'OCDE, les fameuses études PISA, montrent quand même que les pays qui réussissent le mieux, ce sont ceux qui favorisent l'hétérogénéité des publics scolaires, c'est-à-dire mélanger des bons et des pas bons et ne pas exclure. Donc de toute façon, en elles-mêmes, les classes d'élite ne sont par définition pas bonnes, mais je ne crois pas que ce soit ça que l'on pratique en France.
Marie Picmal, l'éducation nationale, est-ce que c'est un interlocuteur simple à aborder ? C'est pas un peu comme l'armée, le ministère de la Défense, un peu secret, difficile d'avoir des infos ?
Vous parlez du ministère ?
Ouais, du ministère de l'éducation nationale.
Alors moi je dirais que le ministère communique beaucoup, c'est assez facile d'avoir des informations.
La ministre aussi,
elle communique même trop à mon goût. Elle annonce beaucoup de choses et c'est aussi un des reproches que lui font beaucoup de professeurs, qui est de dire arrêtez un peu d'affaire des annonces et regardons ce qui se passe. Et surtout, en tant que moi journaliste, ce serait plutôt laissez-moi le temps de décrypter, déchiffrer ce que vous dites et de regarder si c'est réalisable ou pas et si ce que vous annoncez, vous le faites vraiment. Donc il y a un flux d'informations et d'annonces en continu qui est assez difficile, je trouve, pour nous journalistes.
Mais là, on est dans la communication du ministère et de la ministre.
Oui.
Est-ce que, par exemple, sur une enquête, lorsque vous avez des questions précises à poser au ministère de l'Éducation nationale, vous avez les réponses, on vous aide ?
Alors, les réponses, oui, globalement, je ne peux pas m'en plaindre, j'arrive à avoir les chiffres. Là où vraiment, et là j'en ai encore fait les frais ce matin, là où c'est compliqué, c'est par exemple pour entrer dans les établissements. Ce matin, je voulais juste aller dans une salle de profs, voir un peu l'ambiance, ce qu'en disent les profs non syndiqués, les profs normaux. Et en fait, c'est hyper compliqué, il faut l'autorisation du rectorat, et le rectorat clairement traîne des pieds et là j'en ai encore discuté avec un principal qui me disait ah non mais moi avec plaisir mais j'ai tellement peur derrière de me faire taper les doigts par le rectorat et encore plus haut par le ministère que vraiment je veux pas que vous rentriez dans mon établissement. Il m'a fait même pire que ça, j'étais devant son établissement donc à faire le pied de grue pour attendre les profs. Il me dit ah non mais je vous en supplie ne citez pas le nom de mon établissement sinon je suis cuit et ça montre aussi que derrière l'information qui nous est donnée elle est très contrôlée par le ministère donc en ça complique un peu notre travail.
Benoît Floch.
Oui, c'est l'une des difficultés je pense de ce secteur, c'est qu'on a une base qui est assez libre de sa parole. Les profs, en général, c'est pas très compliqué d'en trouver pour parler. Le sommet de la pyramide communique aussi beaucoup, mais c'est les cadres intermédiaires en fait, qui sont assez peu causants d'une manière générale. Ça va du chef d'établissement jusqu'aux inspecteurs, etc.
Sylvie Ducato, pour aller à Saint-Amand-les-Eaux, c'était simple, le rectorat a dit oui tout de suite.
Ah bah, je ne suis pas rentrée dans les établissements.
Ah bon ?
Ben non. Non, j'ai vu les professeurs pendant leur temps de vacances d'ailleurs,
ouais.
Puisque c'était la semaine de congé de ces enseignants. Donc là, il n'y a pas eu de problème d'entrée ou pas. Mais il y a eu quand même des réserves sur les photographies. Où est-ce qu'on fait la photo ? Est-ce qu'on cite le nom de l'établissement ? Oui, les questions sont souvent posées. Alors, on a moins de difficultés quand on est pleinement dans l'actualité, dans dans le bon mouvement, hein, quand même, parce que, par exemple, si on prend la période après les attentats, pour ce qui me concerne, moi, je suis allée dans deux établissements pour valoriser les enseignants et l'éducation nationale. Bon, je dis les choses un peu rapidement, mais c'était ça, c'est-à-dire essayer de voir concrètement ce qui se passait sur le terrain à partir d'initiatives qui se passaient dans ces établissements. Et là, ça a été possible. Par contre, en réaction immédiate à l'événement, ça a été impossible, ce qui peut être justifié d'ailleurs. Hein.
Ceci n'est pas une réforme, c'est une démolition. Il faut appeler les choses par leur nom et les dire de manière simple. Un certain nombre de disciplines qui font partie de ce que nous avons reçu des multiples générations précédentes, des siècles précédents, de ceux qui ont fait de la France, de celles de ces générations, et de ce socle qui ont fait de la France ce qu'elle est. Eh bien, tout cela est en train d'être dispersé, traité pour quantité négligeable et supprimé, contrairement à ce que la ministre de l'Éducation dit.
Voilà une charge assez violente hein, de François Bayrou dimanche dernier dans Tous Politiques sur France Inter. Alors François Bayrou s'est un peu adouci depuis quelques jours puisque Najat Vallaud-Belkacem a tenté d'apaiser les critiques en demandant au Conseil supérieur des programmes eh bien de plancher sur les langues anciennes. Un commentaire sur la démolition de l'école, des collèges de François Bayrou.
Moi, je trouve que c'est typique de notre pays. C'est-à-dire que l'école tient une telle place dans... D'abord dans la construction de la République et puis aujourd'hui dans la construction du citoyen français, que c'est voilà, en France l'école a une importance très très particulière. Donc dès qu'on touche aux questions scolaires, ça déclenche des réactions souvent passionnées. Et dans l'école, il y a des vaches sacrées comme les langues anciennes, comme tout un tas de sujets. Et quand on aborde ces questions-là, ça part en vrille très vite.
Marie Darigrand, c'est vrai que ça part en vrille. Marie Darigrand, sémiologue du secret des sources, François Bayrou, donc parlait de démolition. Et ça part en vrille aussi parce qu'on utilise peut-être un peu trop un vocabulaire belliqueux. La presse comme les politiques, on parle de guerre alors qu'il s'agit d'une réforme, Mariette.
Attention Frédéric, vous êtes extrêmement élitiste là, vous avez dit le mot belliqueux, c'est de la façon de dire guerre en latin, comme vous le savez. Hein. Donc dans ce débat en effet qui est très plombé, on parle latin, on parle grec, une polémique, hein, ça vient du mot grec polémos qui veut dire la guerre, et puis notre mot français, eh ben, en fait c'est un mot germanique. Donc vous voyez, quand on parle de guerre scolaire, on emploie une expression qui parle en ces trois langues. C'est ça le français, c'est ça la culture, c'est le mélange de tout ça. Alors, comme vous le disiez à l'instant, une guerre scolaire n'arrive jamais toute seule en France, hein, dans notre pays. C'est comme les guerres picrocolines ou les guerres puniques, il y a toutes celles qui sont venues avant. Donc ça structure notre débat, et malheureusement ça le stérilise, ça l'empêche d'être intelligent sur ces questions-là, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a précisément une polémique, un dualisme tout à fait infertile entre, mettons, l'élitisme et puis l'anti-élitisme, les modernes et les anciens. Enfin, tout ça ne sert à rien sauf à nous faire un buzz médiatique. Donc ça pose la question de la fonction de la presse, mais on en parlera peut-être au cours de l'émission.
Mais on peut parler peut-être des classes bilingues. Le terme est inapproprié, non?
C'est un drôle de mot, c'est un néologisme, hein, comme bimoteur, on peut imaginer. Alors je me suis demandé si ça n'était pas un barbarisme, ce qu'on appelle en grammaire un barbarisme, c'est-à-dire vraiment une forme un peu bizarroïde. Bon, je crois que ça n'en est pas tout à fait une, mais en tout cas c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu la novlangue des techniciens du pédagogisme qui est effrénée et qui empêche quand même de penser, vraiment de nommer réellement les choses. Alors vous l'avez expliqué, les classes bilingues, c'est en gros des enfants qui circulent un tout petit peu dans l'établissement à un moment donné, ça n'est pas nécessairement une création, ce qui serait intéressant, une innovation réelle.
Mariette Darigrand, que l'on retrouvera un peu plus tard dans l'émission.
Est-ce que à 11 ans, en classe de 6e, est-ce que c'est bien pertinent de trier les enfants et de les séparer alors que la mixité scolaire au contraire, a tant de vertus? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir des classes dans lesquelles vous ayez des bons élèves, de moins bons élèves, qui peuvent se tirer vers le haut?
Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal de l'école de la République,
alors,
a priori.
C'est l'idéal. Non, mais c'est, je comprends que cet idéal provoque de l'appréhension parce qu'on se dit, oui, mais ça restera malgré tout inégalitaire, le collège, et donc je préfère mettre à l'abri mes enfants. Je comprends cela. Mais ce qu'il faut comprendre, à votre tour, c'est que la réforme du collège, elle est faite pour rompre avec un collège inégalitaire, pour avoir des classes dans lesquelles lesquelles les enfants ne soient plus noyés dans la masse, dans lesquelles on offre de l'accompagnement personnalisé à chacun d'entre eux, c'est-à-dire qu'on s'adapte à leurs différences. Et donc ceux qui sont en avance, par exemple, si votre fils est bon élève, et tant mieux, et je le souhaite, voire surdoué, eh bien, il aura un accompagnement personnalisé qui lui permettra d'approfondir ses connaissances. Il ne va pas être retardé par les autres. Mais je crois vraiment que la mixité scolaire, tout comme la mixité sociale, on a à y gagner, et donc il faut organiser un collège pour cela. Alors, et pas un collège qui différencie les élèves dès l'âge de 11 ans. Enfin, franchement, on peut quand même attendre l'âge de 16 ans pour aller dans des filières, des sections, pour être dans la sélection.
Voilà, Najat Vallaud-Belkacem, toujours sur France Culture, mercredi dernier, dans les matins de Marc Voinchet, la sélection pas avant 16 ans. On va écouter Jack Lang, ancien ministre de l'Éducation nationale, sur ce point précis des classes européennes et de l'enseignement du latin et du grec. Jack Lang, chez nos camarades de France Inter.
Mais une crainte, qui est aussi la mienne, c'est la suppression de filières d'excellence qui ont fait leurs preuves. J'ai moi-même créé en 1992 ce qu'on appelle les classes européennes, qui sont suivies par 20% d'élèves, qui permettent d'assurer un enseignement renforcé d'une langue vivante et plus encore l'enseignement de matières comme l'histoire ou les mathématiques dans cette même langue vivante. C'est un grand succès. Pourquoi décapiter ces classes européennes ? De même, je regrette que les langues anciennes, dans la réforme proposée, risquent d'être asphyxiées. C'est M. Châtel qui, par exemple, a supprimé le CAPES de lettres classiques. Alors, foin d'hypocrisie, moi je suis pour l'enseignement du latin et du grec inscrit pleinement comme matière dans le cycle ou dans les cycles du collège. Puis il y a l'autre aspect de la réforme du collège, ce sont les programmes, c'est le Conseil national des programmes. Les programmes, en effet, sont tels qu'ils sont touffus, encyclopédiques, illisibles. Par exemple, pour l'histoire, je ne comprends pas que l'on tourne le dos à nouveau à l'approche chronologique de l'histoire. Et je pense que la ministre aura à cœur de réécrire ou d'écrire vraiment ses programmes.
Voilà, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jack Lang, bien sûr, la ministre actuelle, Najat Vallaud-Belkacem, veut supprimer ce que Jack Lang a mis en place. Donc, c'est la classe euro. Mais ces classes euro et bilingues rencontrent un vrai succès. Les derniers chiffres dont on dispose, c'est 275 000 élèves en section européenne à la rentrée 2010. Ça ressemble pas vraiment à une niche pour élite, ce dont on parlait jusqu'à présent. Alors, plutôt que de les supprimer, pourquoi ne pas les développer ? Par exemple, Sylvie Ducato, c'est le bon sens, non ?
Oui, bien sûr. C'est pas en supprimant de toute façon qu'on règle forcément les problèmes. Après, y a des questions extrêmement compliquées, qui sont posées à l'école aujourd'hui. Fondamentalement, c'est la question de sa démocratisation, qui en est 175 000 qui apprennent deux langues. À partir de la sixième, c'est très bien, mais il y en a aussi 140 000 qui sortent de l'école sans rien. Donc c'est tout ça qui est posé comme question. Est-ce que tous les enfants sont capables d'apprendre ? Oui, il y a des gens qui partent de ce postulat, c'est-à-dire tous les enfants sont capables d'apprendre, tous les enfants sont capables de réussir. Qu'est-ce qu'on met derrière ?
Et les profs dans tout ça, Marie Piquemal, les professeurs, on a un peu l'impression quand même qu'il y a du prof bashing un peu en France, ça ne va pas les aider.
Ouais, c'est vrai. Hein? Non, mais je pense qu'on ne parle pas assez des bonnes expériences et de tous ceux qui sont positifs, qui font de leur mieux et qui essayent plein de choses.
Ouais.
D'ailleurs, par exemple, l'interdisciplinarité, il y en a déjà plein qui le font. Bon, la ministre l'avait dit, mais c'est quand même 7% à peu près des enseignements qui se font aujourd'hui, des projets, de la coopération entre des profs. Donc, ça existe déjà. Donc, il faut quand même remettre ça, vraiment le redire quand même, qu'il y a beaucoup de profs qui font plein de choses bien et qui essaient, qui se donnent les moyens, et avec plus ou moins de réussite et qui se sentent plus ou moins soutenus par leur hiérarchie. Après, là, franchement, sur cette réforme, c'est difficile d'avoir une vue vraiment exhaustive parce qu'il y a beaucoup de profs. Donc, arriver à dire ce que pensent les profs, là, je n'en suis pas trop capable. Mais des témoignages que j'ai, quand même, il y en a beaucoup qui sont plutôt opposés à la réforme. Pour des raisons qui sont très variées. Alors, ça va du prof qui dit de toute façon, derrière, on ne va pas avoir les moyens. On sait comment c'est. Ça fait 15 ans que je travaille dans l'éducation nationale. Je connais le ministère. Je sais qu'en 2017, il va y avoir un changement de gouvernement et que donc, on va revenir sur ce qui c'était. Donc, autant ne rien changer. Donc, il y en a qui ont clairement ce discours-là, plutôt pessimiste pour le coup. Il y en a d'autres qui disent ça va pas assez loin. Si on considère vraiment que l'enseignement par discipline, c'est nul, ok, bah alors il faut plus faire ça. Et il faut peut-être revoir de manière globale notre manière d'enseigner. Un prof me disait hier matin, par exemple, il me disait il faut qu'on se pose la question collectivement de savoir ce qu'on veut que les élèves sachent à la fin du collège. Par exemple, il dit il faut arrêter de... On s'éparpille. Il faut arrêter d'apporter par petites touches. Il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que, par exemple, on considère que le latin, c'est fondamental? Et auquel cas, OK, tous les gamins doivent faire du latin et pas juste une partie. Et il y a des profs qui sont très contents et hyper enthousiastes sur la réforme. Tout ça pour finir sur mon petit panel.
En tout cas, les lycées privés font leur pub avec cette réforme du collège.
C'est sûr que
Sylvie Ducato.
Ils font plus que leur pub, hein, parce qu'il y en a, par exemple, à l'annonce de suppression d'options, par exemple, qui créent ces options pour la rentrée. Hein. Voilà. C'est plus que faire leur pub. Mmh. Ça, c'est un peu... les enseignants que j'ai rencontrés s'en inquiètent.
On s'inquiète d'ouvrir un boulevard au privé? Je repose ma question différemment.
Moi, j'ai entendu.
C'est lui, Ducato, l'a entendu.
Oui, mais de toute façon, il y a une limite qui est que le financement de l'enseignement privé qui est assuré par l'État, enfin le privé sous contrat, bien entendu, ça a une limite. Donc de toute façon, l'enseignement privé ne peut pas se développer comme ça de manière totalement...
Mais il peut devenir plus attrayant, peut-être.
Peut-être, oui. Mais il y a quand même une limite qui est celle du financement de l'État. Et l'État ne financera pas le développement inconsidéré du privé. Donc, il y a quand même une limite...
Oui, ils sont quand même tenus d'appliquer... d'appliquer les textes. Les profs du privé, ce sont les profs de l'éducation nationale.
Donc, absolument. Ouais.
Les programmes officiels, il y a quand même... Après, on peut parler des profs, des établissements hors contrat, mais là, c'est encore autre chose. Ça reste quand même encore marginal en France. Après, je pense que c'est ce qui fait peur, en effet, à certains professeurs. Et c'est un des arguments aussi repris par la droite, qui est de dire si on enlève les classes bilingues et d'une manière, la possibilité de faire un petit peu des classes de niveau, même si le mot fait peur. Mais c'est aussi, il y a une partie qui dit, tout le monde va aller vers le privé, mais...
Mais mécaniquement, c'est pas possible.
Non, mécaniquement, c'est pas possible.
Thibuenton nous a rejoint. Alors, on a aussi parlé d'ennui ces derniers jours à l'école. Najat Vallaud-Belkacem veut lutter contre l'ennui scolaire. Et c'est ce qui vous a intéressé, Thibuenton, parce que ce cocktail ennui, ado et internet porte un nom, Borcor.
Oui, de quoi remettre en cause l'idée qui voudrait qu'Internet soit une machine à supprimer les temps morts. Le Borcor, ou ennui pur, ou ennui quintessentiel, c'est le nom qu'a donné une journaliste du New York Magazine à cette expression, surtout adolescente, donc de l'ennui sur Internet. Par le biais des médias sociaux, pullulent en effet des instantanés de vie apparemment dénués d'intérêt. Les instantanés, hein, pas la vie. Je dis pas que la vie de ces ados est totalement dénuée d'intérêt, mais qu'à cet instant-là, une absence d'intérêt, un certain désœuvrement va s'exprimer en ligne sur les réseaux. Et cette expression d'une absence d'intérêt existentiel est en elle-même intéressante à observer, tant elle est répandue chez les jeunes connectés, au point qu'un nom a donc été inventé pour la décrire. Borcor. Reprenant le concept inventé outre-Atlantique, hein, c'est aussi et souvent ça le journalisme, un article du magazine du Monde a bien cerné le phénomène, me semble-t-il, je cite, « L'abondance du Borcor, du rien produit et partagé dans l'indifférence générale, est le problème d'une époque où on a presque toujours sous la main un téléphone doté d'une caméra, mais pas forcément un chaton qui joue du piano à filmer. » Mais est-ce forcément un problème d'ailleurs? Tout dépend de quel genre d'ennui on parle, me direz-vous. Tout dépend si l'on parle de l'ennui propre au temps libre, de l'ennui au travail. Il paraît d'ailleurs que le bore-out, qu'on pourrait traduire par sous-menage, fait des dégâts bien pires que le burn-out ou surmenage désormais. Ou si l'on parle, mettons, de l'ennui à l'école. L'ennui, donc vous l'avez dit, c'était précisément l'un des arguments avancés par notre ministre de l'Éducation nationale pour faire valoir la nécessité de sa réforme des collèges. C'était le 11 mars dernier sur Europe 1.
Le vrai problème qu'on a aujourd'hui au collège, c'est que les collégiens s'ennuient.
Oui, on lui a suffisamment reproché par la suite ce propos, notamment Régis Debray d'une formule choc, une sorte de tweet manifestement préparé sur France Inter le 27 avril dernier.
La civilisation aussi... C'est pas le Nutella, c'est l'effort.
Najat Vallaud-Belkacem a finalement précisé sa pensée. Mardi dernier, toujours sur Inter, je la cite, « Bien entendu que l'apprentissage au collège demande une part d'effort. Ce que j'entends par ennui, c'est la passivité. » Ah, voilà, il faut donc lutter contre la passivité des collégiens. Laquelle passivité conduit à l'ennui qui conduit au refus de l'effort. Il faudrait donc les rendre plus actifs, faire en sorte que les enseignements qui leur sont dispensés les impliquent davantage. Sauf que, le Borcor, j'y reviens, le montre bien, sauf qu'ennui et passivité ne sont pas du tout synonymes. Dans le Borcor, l'ennui s'exprime comme tel, comme ennui, de manière tout à fait active sur les réseaux. Et la force des outils numériques réside justement dans cette possibilité de témoigner de son ennui sans s'en détourner pour autant. Quant à savoir ce que dit ce refus de se détourner de l'ennui, cette apparente jouissance de l'ennui, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a là l'expression d'une sorte d'inquiétude sociale fondamentale contre laquelle l'école seule ne peut rien. En attendant, l'ennui profite surtout aux industries médiatiques et notamment aux entreprises du numérique qui le captent et le transforment en revenus publicitaires. C'est-à-dire que la lutte contre l'ennui a été en grande partie assimilée par le capitalisme et que l'ennui du collégien, pointé du doigt par la ministre, n'est peut-être finalement que la préfiguration de l'anxiété du travailleur. Mais ne noircissons pas le tableau, Frédéric, car l'ennui peut aussi être bénéfique, terreau fertile de toutes les fulgurances et les tentatives pour tromper l'ennui qui ont l'air de perdre de temps à première vue, comme le fait de procrastiner sur la toile en oubliant de faire ses devoirs, par exemple, tout à fait créatrice. Aux États-Unis, l'université de Pennsylvanie propose ainsi depuis la rentrée un cours intitulé « Perdre son temps sur Internet » où il s'agit précisément d'apprendre à accoucher d'une œuvre en cultivant une certaine activité de l'ennui et de la distraction sur les réseaux, à transmettre au Conseil supérieur des programmes.
Voilà, on fera la commission. Thibaut Henneton. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, un titre tout trouvé, ça fait du bien le matin sur France Culture, Pink Floyd. Égalité plutôt qu'élitisme, Bonin Floch, le système est quand même très élitiste, les lycées sont très élitistes, on prend sur dossier ?
Non, mais oui, le système est élitiste, mais c'est comme ça qu'il a été créé. La République, enfin l'école de la République, a pour mission depuis le début de dégager une élite. pour le pays. Et le corollaire de tout ça, c'est que bah, on trie les gamins, quoi. C'est-à-dire que on sélectionne. Nous, on le fait avec les maths, parce qu'on considère que c'est l'une des matières les plus objectives. Ou enfin, puis enfin, c'est lié aussi à d'autres éléments. Enfin, toujours est-il que le système trie. Et la difficulté du système éducatif français, c'est de passer de ce modèle-là à un modèle où on ne fait pas que sélectionner une élite, ce qu'il faudra toujours faire, mais à un système où tous les gamins réussissent. Alors pas forcément dans les maths, mais dans d'autres formes de réussite. Et cette mutation-là, on a beaucoup de mal à la conduire finalement.
Et la difficulté,
Sylvie Ducato, de l'humanité.
La difficulté avec le collège, c'est que c'est justement à cet endroit-là que se fait le tri.
Oui.
Donc la tension sur l'orientation, par exemple, des enfants est très très forte. D'où ces phénomènes de concurrence que j'évoquais tout à l'heure. Mais c'est vraiment là que ça joue.
Fait,
y compris, ça devient un peu étrange parce que la scolarité des enfants maintenant, des jeunes, même on peut dire des jeunes, elle se prolonge. Et je crois qu'il y a 80% des élèves de seconde qui ont 15 ans, 16 ans. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, la fin de la scolarité, elle intervient après le collège. Or, le collège reste le lieu de tous les enjeux. Donc il y a quelque chose qui va pas et qui place le collège dans une situation qui n'a plus rien à voir avec la réalité du parcours scolaire, en fait, aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a une réflexion, il y a des gens qui portent cette réflexion-là de retarder l'obligation scolaire à 18 ans. Par exemple.
Je voulais qu'on parle des syndicats d'enseignants qui appellent donc à la grève mardi prochain et à une journée de manifestation. Donc ils ont un très grand poids hein, dans l'éducation nationale, les syndicats. Est-ce qu'ils peuvent faire reculer la ministre et abandonner, selon vous, cette réforme, Marie Piquemal?
Je sais pas. Non, ce qui est sûr, c'est que oui, en effet, les syndicats, en tout cas la grande majorité des syndicats, du moins le SNES.
Qui est... Ça serait pas la première réforme qui est abandonnée hein, dans l'éducation nationale.
Non, c'est vrai.
Le SNES, vous disiez.
Oui, le SNES, qui est le syndicat vraiment majoritaire chez les profs dans le secondaire, appelle à la grève et à la mobilisation. Après, dire est-ce que ça va peser, est-ce que les profs vont descendre dans la rue, ça, est-ce que beaucoup de profs vont faire grève?
Mais le poids des syndicats.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, enfin, franchement, ça, de toute façon, la réforme, elle est adoptée. Donc après,
elle a été adoptée en avril dernier. Hein.
Ouais. Donc par la communauté éducative où les syndicats sont représentés. Sauf qu'en fait, dans la communauté éducative, il y a bien plus que les syndicats de profs. Il y a aussi la FCPE qui représente des parents d'élèves, par exemple, et il y a le MEDEF. Enfin, il y a plein de personnes à l'intérieur. Et donc, à la majorité, la communauté éducative a validé la réforme, mais la plupart des syndicats qui représentent, en tout cas, 80% des enseignants du secondaire se sont opposés au texte pour des raisons très variées. Et d'ailleurs, dedans, il y a des syndicats de droite, enfin des syndicats plutôt conservateurs et d'autres plutôt... Enfin, donc du coup, est-ce que ça va avoir suffisamment... Est-ce que ça va pouvoir... Je pense que quoi qu'il en soit, ça va mettre le ministère dans une situation compliquée. Ils seront obligés de céder sur certaines choses et du coup, la réforme risque de perdre pas mal de sa substance, peut-être. Mais franchement, je sais pas.
Benoît Floch. Le syndical n'est pas uni de toute façon. Hein, et donc ça peut jouer aussi sur la mobilisation. Les mobilisations enseignantes, elles ont pris un sacré coup dans l'aile, si je puis m'exprimer ainsi, en 2003, avec toute l'histoire du paiement des jours de grève. Donc... Je ne sais pas si non plus si la mobilisation peut être telle que Najat Vallaud-Belkacem soit menacée. Elle est quand même soutenue politiquement. J'ai du mal à croire que le mouvement puisse l'emporter personnellement. Mais...
Il y a aussi, Marie Piquemal. C'est quand même un gouvernement de gauche. Les profs ont voté majoritairement Hollande. Et je pense qu'il y a une partie quand même qui est gênée à l'idée de manifester, de faire grève et d'être associée aussi à la droite. Enfin, ou du moins aux conservateurs et aux réactionnaires qui voudraient pas faire, qui voudraient le statu quo. Parce que s'il y a bien quelque chose où tout le monde est d'accord, c'est que dans l'état actuel, ça peut plus continuer et qu'il faut une réforme du collège.
Oui,
ça,
mais quand on parle de réforme, on prend beaucoup de risques. Hein.
Voilà.
Mais il y a quand même aussi beaucoup d'enseignants, enfin, on le voit sur Twitter, qui disent clairement leur colère vis-à-vis de l'actuelle majorité. Et enfin, moi, j'ai lu des tweets où des enseignants disaient, moi, c'est terminé, je vote plus à gauche. Notamment un qui disait qu'il pleurait de rage en écoutant la ministre s'exprimer à la radio. Bon, il y a quand même des réactions très fortes.
Hein. Ah, je vote plus à gauche et j'envoie mes enfants dans le privé.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai qu'il y a, il y a cette colère-là, et depuis un moment déjà, parce qu'il y a, eu les votes de budget dans les établissements avec les dotations horaires. Il y a des mouvements, en fait, l'éducation prioritaire, il y a des mouvements depuis la rentrée de septembre dans les collèges. Il y a quand même énormément de colère, beaucoup de déceptions.
Alors, Mariette Darigrand, votre éclairage sur notre rôle à nous, médias, en relais, mais on l'explique peut-être pas assez. On devrait, par exemple, comme Jean d'Ormesson, dans sa lettre au président de la République, peut-être rappeler que notre culture plonge ses racines dans le latin et le grec, ce que vous faisiez tout de même un peu au début, lors de votre première intervention. Bref, on ne ferait pas suffisamment le boulot.
En tout cas, ce qui est frappant, c'est que la question de l'école est complètement déconnectée de la question plus générale de la culture. Alors, en effet, d'où venons-nous? C'est ça quand même qui aussi transparaît dans ce que veut faire le gouvernement aujourd'hui. Il y a ce gros problème de la multiculturalité, de ce que la France est en train de devenir. Et là, notre histoire, oui, je crois, peut nous servir énormément. Nous avons déjà réussi à être multiculturels en Europe. Et nous avons parlé plusieurs langues, bien sûr, le latin, le grec, mais aussi nous avons eu des mots persans. Par exemple, le mot paradis magnifique a été tout de suite pris par les moines là au 9e siècle. Ils avaient jardin, ils ont pris paradis parce que c'est le même mot, c'est la même idée. Il y a des idées universelles dans les langues qui traversent toutes les représentations humaines. Le paradis, c'est un jardin avec des murs autour et à l'intérieur, c'est très beau. C'est dans plusieurs langues, c'est ça la culture. Donc, il faut le rappeler, il faut rappeler qu'au 14e siècle, eh bien, tout le monde voulait parler italien parce que c'était les bijoux, les macarons, la beauté, etc. Donc c'est ça les phénomènes, les tendances culturelles et qu'il faut rappeler. Alors d'ailleurs, à ce propos, le mot élite n'est pas un mot qui est arrivé par hasard, hein. C'est un mot qui est arrivé par Christine de Pizan, une merveilleuse poétesse française d'origine italienne. Pour elle, l'élite, c'était la femme désirée, c'était elle qui était élite. Donc il faut reprendre les mots, il faut reprendre la culture. Mais si les journalistes font cela, eh bien, à ce moment-là, ils se mettent dans un rôle qui n'est pas un rôle, disons, de l'intellectuel engagé qui bataille. Ça, on en a plein en France, mais ces gens-là n'animent pas le débat de manière généreuse. Ils le ferment en général. Hein, ils sont trop des intellectuels à la Zola. Il y a une autre manière pour les journalistes, je les mets ensemble, hein, les intellectuels et les journalistes, c'est d'être beaucoup plus érudits, plus plongés dans la culture, et être à ce moment-là des médiateurs à la Dumayet, à la Pivot, des vrais médiateurs amoureux des œuvres, amoureux du langage, et n'ayant pas peur de faire de la culture. Alors ici, on en fait beaucoup, France Culture, mais il faut que les médias plus énormes, plus grand public, la télé, etc., ou les journaux, eh bien, n'aient pas peur, hein, de la difficulté de la culture, n'aient pas peur d'être d'une certaine manière élitiste pour tous. Belle formule de Jean Villard.
Élitiste pour tous. Après, le latin pour tous, dont on a aussi entendu parler. Pour conclure ce chapitre, Yacine Bouzard. Le clin d'œil.
Bonjour, je suis professeur de yoga. Bienvenue dans cette méthode de réduction du stress par le yoga. Asseyez-vous confortablement. Prenez contact avec la posture.
Madame Taubira, dont le combat effréné vers la médiocrité est en passe d'être dépassée par la ministre de l'Éducation nationale.
Vous remontez votre attention jusqu'au sommet du crâne.
Attaque personnelle, moi je les ai entendus. Je les ai entendus hier soir dans la bouche du président de votre formation contre la ministre de l'Éducation nationale.
Relâchez bien la tête en arrière. Respirez profondément dans cette posture.
52% des Français sont d'accord pour rétablir la peine de mort. C'est un chiffre en augmentation par rapport à l'an dernier.
Et venez vous allonger dans la posture de relaxation. Shavasana.
85% pensent qu'il faut, je cite, un vrai chef pour remettre de l'ordre en France. Et c'est une idée qui gagne du terrain, y compris à gauche.
Déroulez votre dos lentement sur le sol, vertèbre par vertèbre. Ouvrez les mains vers le ciel. Respirez calmement au niveau de l'abdomen.
Voilà, respirons calmement. Le yoga peut nous y aider. Thibaut Henton, cette fois, pour l'image marquante de ces derniers jours.
Lors d'un contrôle de routine à la frontière entre le Maroc et l'Espagne, voilà ce que découvrent les gardes-frontières espagnols stupéfaits. Une forme humaine.
Une forme humaine. Une forme humaine. J'y sais plusieurs fois, c'est fascinant. Ce ton journalistique du JT, cette forme humaine, c'est celle d'un jeune Ivoirien de 8 ans, transporté dans une valise de 70 cm à la frontière entre le Maroc et l'Espagne, à Ciota, c'est à l'extrême nord-est du Maroc, retrouvé dans un état lamentable, d'après la police espagnole. Et tout cela est illustré, d'où le sujet de France 2, par une image du scanner à rayon X des douaniers, suivie d'une photo de l'enfant, encore dans la valise, mais le visage flouté. Hein. Le visage flouté, comme pour signifier l'indécence d'une telle image, mais alors, pourquoi la montrer? Qu'est-ce que ça apporte? Ah oui, tiens, ça rentre, un gamin de 8 ans dans une valoche. Et en même temps, c'est super insolite, vous trouvez pas? Carrément insolite, même au moment où, c'était il y a 10 jours, le ministre de l'Intérieur dit de Calais qu'il est pour lui le laboratoire de ce que la République peut produire de meilleur. Avant que le lendemain de sa visite n'apparaissent sur Internet des vidéos de violences policières ordinaires dans cette même ville, des scènes qui officiellement n'existent pas, mises en ligne et entrecoupées d'extraits du discours du ministre par le collectif Calais Migrants Solidarity. Tout ça est bel et bon, mais vous savez pas la dernière des douaniers espagnols?
Une forme humaine.
On change totalement de sujet, on va parler des coulisses du voyage de François Hollande à Cuba. Retour de mission avec Christine Moncla, bonjour.
Bonjour.
Alors vous étiez le week-end dernier avec le président et tout le VO, le voyage officiel à Cuba. Vous arrivez quelques jours avant la délégation. Cuba, vous connaissiez pour y être allé plusieurs fois. Est-ce que le pays a changé depuis l'annonce du rapprochement historique avec les États-Unis du président Obama?
Alors... Je trouve qu'en surface, ça a l'air d'avoir un peu changé, au sens où quand on monte dans un taxi, tout de suite, les critiques fusent un peu plus vite qu'avant. On a l'impression que les gens râlent un peu plus facilement, mais toujours hors micro, toujours en off. Dès qu'on sort le micro, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et au fond, la liberté d'expression reste quand même absolument nulle ou quasiment nulle. J'ai un grand regret, avant de partir, j'ai rencontré plusieurs opposants qui sont un peu connus à l'étranger, mais des opposants qui étaient beaucoup moins connus et qui sont aussi des opposants de gauche, donc qui sont pas soutenus par les Américains comme pas mal d'autres, et qui au dernier moment m'ont écrit ces mots qui m'ont beaucoup touchée. On est trop vulnérable en tant qu'anticapitaliste, parce que justement on n'est pas soutenu par l'extérieur, et donc on peut pas vous rencontrer parce que ça nous exposerait trop. Donc voilà, quand après on entend le président français qui dit qu'il n'y a pas vraiment plus trop de problèmes à Cuba, voilà, c'est la version officielle, mais c'est vrai que ça pose un peu des questions quand même.
Alors, ce voyage officiel, le VO de François Hollande, donc c'est une organisation parfaite, j'imagine, les rendez-vous, les déplacements sont millimétrés?
C'est très millimétré, ça c'est clair, c'est vraiment comme dans un voyage organisé, on est en bus de presse, on nous dit c'est à telle heure, on arrive à telle heure. On peut pas faire tout le programme parce qu'il était trop dense, donc on devait choisir entre l'université et le forum économique, entre la place de la Révolution et la résidence de France. Donc on passe beaucoup de temps finalement à attendre le bus, à attendre le SMS du staff qui nous dit il faut partir, il faut revenir, etc. Et à attendre les fameux briefs. Les briefings off qui ponctuent en fait ce genre de voyage officiel. Donc on attend beaucoup, mais au final, moi j'ai trouvé qu'on voyait finalement peu de choses. J'étais un peu déçue qu'on n'approche pas plus souvent, plus régulièrement le politique qu'on est censé suivre. Parce que finalement, comme je vous disais, on est quand même loin, on est quand même entre journalistes. Il y a beaucoup de séquences qui sont, comme on dit, poulées. Donc il y a un poule qui va et qui transmet ensuite aux autres. Donc il y a plein de séquences auxquelles on n'assiste pas du tout.
Il y a des rendez-vous, des points, des déclarations des...
Oui, alors c'est un peu au hasard de ce qui se passe. Par exemple, quand j'y étais lundi, j'avais choisi, moi, d'aller à la résidence de France. C'était la séquence résidence de France. Bon, c'était pas tant que ça m'intéressait beaucoup, mais je m'étais dit peut-être que j'aurais une chance d'avoir Hollande d'un peu plus près. Et il se trouve qu'effectivement, comme il venait de rencontrer Fidel Castro...
Voilà, cette fameuse rencontre,
cette fameuse rencontre. Donc du coup, c'est nous qui avons
Vous
eu la première déclaration de Hollande. On était à la résidence de France à 15h, on venait d'y arriver. Hollande devait aller voir les Français et prononcer un discours à 15h. Et à ce moment-là, on a appris par texto qu'il était reçu par Fidel Castro. Donc on l'a appris quand c'était déjà en train de se faire.
C'est l'Élysée qui envoie le texto?
Oui, tout à fait. Mmh. Pour être sûr que ce soit bien, bien secret, qu'il n'y ait pas des équipes qui arrivent, etc. Et donc on a appris ça à la résidence de France. Donc Ségolène Royal, qui était du voyage, a fait patienter les participants en lisant le discours que Hollande lui avait demandé de lire. Et puis ensuite, François Hollande est arrivé. Il a prononcé à ce moment-là son discours et on a pu avoir... ses premières.
Et après, vous l'interviewez
ça des confidences.
Sur sa rencontre avec Fidel Castro.
Oui, alors voilà, ça reste en off, mais en même temps, il n'y a aucune confidence réelle. C'est juste son premier sentiment après sa rencontre. Donc là où il nous dit que, il l'a trouvé très, très alerte intellectuellement, qu'ils ont parlé de rhumatisme, mais d'écologie, d'alimentation, d'internet, de toutes choses, et pas tellement du passé, qu'il était plutôt tourné vers l'avenir et pas vers l'histoire.
Et là, la com de l'Élysée vient voir ce que vous avez écrit, ce que vous voulez dire ou pas ?
Oui, après...
Un petit contrôle.
Un petit, on nous dit, il ne faut pas enregistrer, il faut dire que ça a tourné autour du climat, mais pas les remarques sur Fidel Castro lui-même, où il n'avait fait aucune remarque absolument désobligeante ou compromettante pour lui ou pour Fidel Castro. Mais voilà, après, nous, pendant ce temps-là, comme on n'était que quelques-uns à la résidence de France, on transmettait toutes ces informations à nos camarades qui étaient sur la place de la Révolution, pour qu'ils puissent faire leur première dépêche, leur premier papier en direct, selon la déclaration de Hollande qu'on avait eue.
Vous étiez le poule de l'ambassade de France.
Sans le vouloir, parce qu'on n'était pas inscrit comme poule.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec André Chassaigne, le communiste, et Raoul Castro ? Il y a deux photos assez étonnantes que vous nous avez rapportées, qu'on peut voir sur le site franceculture.fr.
Alors, lors du dîner officiel au Palais de la Révolution le lundi soir, à un moment, donc, dans la délégation française, il y avait plein de chefs d'entreprise, plein de parlementaires, et il y avait notamment André Chassaigne, qui est communiste et qui est président du groupe d'amitié France-Cuba à l'Assemblée, qui demande à avoir une autorisation de photographier avec Raoul Castro. Donc là, ensuite, un participant du dîner me raconte. Voilà, c'est le off.
C'est le poule, toujours.
C'est cela, non. Ça, c'est un participant hors journaliste. Donc André Chassaigne s'approche de Raoul Castro, à l'autorisation de faire une photo. À ce moment-là, François Hollande, qui était assis plutôt près de Raoul Castro, s'éloigne en disant « Je ne veux pas créer de problème politique, je vous laisse prendre la photo entre vous. » Et Raoul Castro, tout ça va très vite apparemment, tout le monde rigole beaucoup. Raoul Castro s'esclaffe en disant « Ah, je vois que le président français ne veut pas être pris en photo avec des communistes. » Alors du coup, François Hollande revient, parce que tout ce petit monde-là, finalement, on s'aime bien. Et François Hollande revient et se met au milieu de la photo et dit « Bon, d'accord, tant pis, on va quand même faire la photo du rassemblement. » Tout ça, donc, étant un trait d'humour propre à François Hollande. Et donc, il y a effectivement la photo de Raoul Castro et André Chassaigne se serrant la main. Et puis la photo d'après, la même, mais avec François Hollande derrière. Voilà.
Christine Moncla, merci beaucoup. Merci à tous. L'émission se termine. Merci à nos invités. Sylvie Ducato, journaliste en charge de l'éducation à l'humanité. Marie Picmal, journaliste à Libération. Benoît Floch, spécialiste des questions d'éducation au monde, auteur de Mon École, publié aux éditions du Chêne. Nos deux regards extérieurs de l'émission qui nous ont accompagnés et éclairés aujourd'hui, Mariette Darigrand, sémiologue, et Thibaut Henton pour les images et le web dans les coulisses de l'émission. Les indispensables Mathias Mégy et Doria Zénine cette semaine pour la préparation, la réalisation et le site franceculture.fr, avec aux manettes aujourd'hui Bruno Gagnère-Fontanille. Le clin d'œil de la semaine yoga était signé Yacine Bouzard. Merci Christine Moncla, de retour de Cuba avec un peu de décalage horaire encore. Et puis un rendez-vous exceptionnel après-demain, lundi, sur Culture. Manuel Valls sera le grand invité des matins de France Culture. Manuel Valls répondra aux questions de Marc Voinchet avec Brice Couturier, Caroline Fourest et Frédéric Metezeau. Toute l'actualité politique et économique. Il sera aussi question de la réforme du collège à la veille de la grève dans l'éducation nationale et de la journée de manifestation. Manuel Valls, grand invité des matins de Culture. On vous donne rendez-vous lundi 18 mai de 7h30. À 8h45, voilà dans un instant le journal de Mathieu Laurent, suivi de répliques, la Révolution, la République, la France. Alain Finkielkraut reçoit Mona Ouzouf et Patrice Guénifé. C'était Le Secret des Sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique, bonne journée sur Culture.
En fait, c'est hyper compliqué, il faut l'autorisation du rectorat, et le rectorat... clairement traîne des pieds, et là j'en ai encore discuté avec un principal qui me disait « Ah non mais moi avec plaisir, mais j'ai tellement peur derrière de me faire taper les doigts par le rectorat et encore plus haut par le ministère que vraiment je veux pas que vous rentriez dans mon établissement. »
Nous avons déjà réussi à être multiculturel en Europe et nous avons parlé plusieurs langues, bien sûr, le latin, le grec, mais aussi nous avons eu des mots persans, par exemple le mot « paradis magnifique » a été tout de suite pris par les moines là au 9e siècle, ils avaient jardin, ils ont pris paradis parce que c'est le même mot, c'est la même idée.